France Culture.
Ceux qui aiment la parole, pour tous ceux qui aiment simplement se parler, s'écouter, mieux comprendre, mieux définir, qui croient dans le pouvoir de la parole, cette éthique de la parole, cette éthique de la promesse, tenir parole, c'est peut-être l'autre nom du lien indéfectible avec le pacte social, avec le pacte républicain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous faisons face à une décontextualisation permanente, à une brutalisation des mots, à une polarisation des idées, à une radicalisation des esprits, un réductionnisme des arguments, une désinformation. Notre lien à la parole est abîmé, il est meurtri. Alors je pense aux mots de Paul Ricoeur, que je fais mille fois mien. Qu'est-ce que je fais quand j'enseigne ? Je parle. Je n'ai pas d'autre gagne-pain et je n'ai pas d'autre dignité. Je n'ai pas d'autre manière de transformer le monde et je n'ai pas d'autre influence sur les hommes. La parole est mon travail, la parole est mon royaume.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous, auditeurs, auditrices des Rencontres de Pétrarque et à vous, nombreux, très nombreux publics de la Cour Soulages du rectorat de Montpellier qui vous êtes une fois de plus déplacés en nombre pour venir écouter ces 5 jours de débats en direct placés cette année sous les auspices de la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury qu'on vient d'entendre et toujours à l'ombre de notre majestueux compagnon Le Tilleul qui nous présente une fois de plus, il va mieux que l'année dernière d'ailleurs, son plus beau feuillage. Une 39e édition de Pétrarque qui fait honneur à la parole dans ses deux dimensions individuelles et collectives. Une parole qui nous semble en difficulté, tant elle a oublié sa finalité première, faire lien. Réapprendre à se parler, c'est donc le thème de ces rencontres toute cette semaine. Nous partirons du diagnostic, ce qui va mal, pour aller vers d'autres façons de se parler, peut-être plus incarnées, comme le langage du corps, en passant par les questions de la liberté d'expression, de l'évolution de la parole politique et des conditions dans lesquelles parler peut libérer notamment les victimes de violences. Alors déjà pour comprendre pourquoi nous avons choisi ce thème cette année, premier épisode, pourquoi réapprendre ? Ne sait-on plus se parler ? Deux invités pour ouvrir ces rencontres avec nous. Gérald Garutti, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à Montpellier. Vous êtes metteur en scène et dramaturge. Vous avez fondé le Centre des Arts de la Parole. Il en sera nécessairement question. Vous êtes l'auteur de « Il faut voir comme on se parle », paru chez Actes Sud. Clément Vidkorovitch, bonjour.
Bonjour.
Merci également de nous avoir rejoints. Docteur en sciences politiques, enseignant à Sciences Po, vous avez été chroniqueur à Quotidien, à France Info, vous avez été streamer. C'est quoi streamer sur Twitch ? C'est quoi streamer ?
C'est faire de la diffusion en direct, c'est de la radio libre antenne sur Twitch.
Voilà, c'est clair. Et puis vous êtes l'auteur de 2 livres, Le pouvoir rhétorique, paru au Seuil en 2021, et L'art de ne pas dire, qui avant d'avoir été un livre, a été et l'est toujours un seul en scène.
Tout à fait.
En tournée d'ailleurs, dans toute la France, à partir de septembre 2025. Je vais commencer avec vous, Clément Vidkorovitch, parce que dans l'art de ne pas dire, il y a une partie que vous consacrez à ce que vous appelez le saccage du langage. Alors, est-ce que ça veut dire que le langage est saccagé et en quoi, selon vous, le langage est-il saccagé ?
C'est une observation, hélas, qui, je crois, aujourd'hui ne fait plus débat. Alors, c'est une observation que je fais, moi, sur l'objet que je saisis en priorité, c'est-à-dire la parole politique. Et je crois qu'il ne fait pas de doute que la parole politique a saccagé les mots, et ce depuis maintenant une dizaine d'années. On a en réalité un acte de naissance international de ce saccage du langage, c'est l'année 2016. En 2016, il y a 2 scrutins dans le monde qui vont beaucoup compter. Le premier, c'est l'élection à la présidence américaine qui voit le triomphe de Donald Trump. Et le deuxième scrutin, c'est le référendum sur le Brexit en Grande-Bretagne. Et ces deux campagnes ont été marquées par une démultiplication du mensonge. Et cette démultiplication du mensonge, elle caractérise ce que l'on appelle aujourd'hui, et on aura sans doute l'occasion d'y revenir, parce que je crois que c'est une clé pour la question qui nous intéresse aujourd'hui. Cette démultiplication du mensonge, elle marque l'avènement d'une ère de la post-vérité. Une ère où le réel n'a plus d'importance, où la parole peut se permettre de se décorréler du vrai, de la factualité, de ce que nous pouvons toutes et tous observer. Aux États-Unis, cette ère de la post-vérité en politique, elle se traduit par plus de 30 000 mensonges énoncés par Donald Trump dans ses 4 premières années de débat. C'est un décompte du Washington Post, ça fait plus de 20 par jour. En Grande-Bretagne, chez Boris Johnson, c'est des dizaines et des dizaines de mensonges devant le Parlement, ce qui, pour nos voisins britanniques, constituait auparavant un tabou impensable. Et hélas, c'est l'observation que je fais et dont je fais état notamment dans l'art de ne pas dire, je constate que cette ère de la post-vérité, cette démultiplication des mensonges en politique, elle s'est installée également en France avec la présidence d'Emmanuel Macron. La spécificité de cette ère de la post-vérité, ça n'est pas simplement que les politiques mentent, car ils ont toujours menti. C'est qu'ils peuvent désormais nous mentir les yeux dans les yeux sans avoir à en payer le prix. Quand Emmanuel Macron, je prends un exemple français, je pourrais prendre des exemples anglo-saxons. Quand Emmanuel Macron, en 2019, devant des élus de l'outre-mer, en parlant du chlordécone, ce pesticide qui a fait des ravages dans les Antilles, dit la chose suivante, il dit « Il ne faut pas dire que le chlordécone soit cancérigène parce que ça agite les peurs et que c'est pas vrai. » Fin de citation, je cite exactement. Immédiatement, il est contredit par toutes les autorités scientifiques qui lui disent que si, il y a effectivement des preuves du caractère cancérigène de ce produit. 3 jours plus tard, voilà la post-vérité. Les services de l'Élysée déclarent au Monde, je cite exactement, « Le président de la République n'a jamais dit que le chlordécone n'était pas cancérigène. » Fin de citation. Cet exemple-là, ces mensonges les yeux dans les yeux, je ne vais pas vous embêter parce que si je commence à les énumérer, on finit dans 3 heures. Il y en a des dizaines et des dizaines. Nous avons altéré purement et simplement notre rapport au vrai.
Surtout comme l'idée, c'est de se parler.
Tout à fait.
Et que Gérald Garrutti est à vos côtés. On va lui passer la parole. Gérald Garrutti, est-ce que vous partagez ce diagnostic? Est-ce que ça correspond à ce que vous, vous appelez la dégradation radicale de la parole? Est-ce que vous, déjà, vous le placez aussi sous le signe de la dégradation de la parole, avant tout politique? Ou est-ce que c'est plus général chez vous ?
Je partage ce constat d'une dégradation de la parole politique et en effet, les États, les hommes politiques ont toujours menti, les yeux dans les yeux. On se rappelle exactement de cette citation de Mitterrand et Chirac. Est-ce que vous pouvez me le dire ? Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux, Mitterrand a menti, les yeux dans les yeux. Les États mentent, les gouvernants mentent, les dirigeants mentent. Et d'ailleurs, c'est ce que Machiavel conseille de faire dans Le Prince d'Amblée, surtout menter et menter le mieux possible. La nouveauté de la chose, c'est qu'effectivement, comme je viens de le dire, Clément, le rapport à la vérité a disparu et ce qui pouvait être l'apanage de façon massive industrielle d'États totalitaires, aujourd'hui semble devenu une sorte de norme universelle. Mais le problème de la dégradation de la parole, pour moi, ne se pose pas seulement dans le champ politique. Il est, je dirais, transversal. Il nous traverse de part en part dans toutes nos sphères, c'est-à-dire la sphère intime, la sphère publique, la sphère professionnelle. Et je pense que une dégradation de la parole, c'est que, et ça rejoint d'ailleurs votre titre avec ces parenthèses problématiques, je dirais, on parle de plus en plus et on se parle de moins en moins. C'est-à-dire qu'on s'écoute de moins en moins, qu'on se prend en compte de moins en moins, et que la parole, qui a toujours été une arme, un instrument de pouvoir, c'est ce que dit d'ailleurs Philoctète dans cette pièce de Sophocle, le royaume, puisque vous citiez Cynthia Fleury, la parole est mon royaume, mais elle est aussi un instrument de pouvoir, et la parole a toujours été évidemment un instrument de domination. Mais en l'occurrence, nous arrivons aujourd'hui à une forme de parole qui est une parole réduite à une arme de destruction massive dans l'ensemble des sphères que nous vivons. Je vous donne un exemple très concret. Il se trouve qu'il y a 2 jours, j'allais à la maison de la radio, et que j'étais à vélo, et que un piéton traverse au mauvais endroit, et il m'a très logiquement traité de connard. J'étais moi dans la bonne file, lui non, mais de toute façon, nous sommes tous les connards des uns des autres. Le monde est désormais peuplé de connards qui peuvent s'insulter à tout moment, à tout bout de champ, quel que soit leur moyen de locomotion d'ailleurs. Donc, le problème de la dégradation de la parole, c'est bien évidemment que la parole est réduite à une forme d'expression qui est, j'appelle moi, balistique, c'est-à-dire la parole réduite à l'éloquence. L'éloquence, non pas celle que décrit Clément, mais réduite à une forme de performance, et une performance qui impacte. Nous parlons désormais en masse, si je puis dire, pour impacter l'autre, pour cogner, pour frapper. C'est bien le sens des punchlines, des vannes, des machines à clash qui font du cash sur Internet. On sait bien que c'est ce qui rapporte, c'est-à-dire le clash, Caris Booba, etc. Donc on arrive à une économie mondiale, je dirais, du clash, des envois et des balles les uns sur les autres, avec évidemment le corollaire qui est que la parole ne fait plus lien. Or, je pense moi que la parole n'est pas qu'expression, mais qu'elle est d'abord relation. Et que lorsque la parole n'est plus relation et interaction, elle devient simplement le symptôme, pas même d'une expression, mais d'un jaillissement. Et on confond là la spontanéité et l'authenticité. On confond avoir une parole authentique qui est fondée, qui est traversée par un certain nombre de prismes, qui est élaborée, à ce qui peut être simplement l'expression des pulsions. Autrement dit, on confond la libération de la parole et le déchaînement de la violence. Et c'est précisément ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut tout dire, et il faut voir la perversité, puisque vous citiez l'exemple américain, de ce grand retournement d'une extrême droite qui invoque la liberté d'expression pour justifier la liberté d'insulter, de dénigrer, de nier, à chacun non pas seulement sa vérité, mais à chacun son opinion. D'ailleurs, Trump nous avait prévenu, hein, puisqu'il a dit « Je vous dirai toujours ce que je crois, non pas toujours ce qui est vrai, mais toujours ce que je crois ». Et que croit-il? Le sait-il lui-même? Il change d'avis tous les jours. Donc à partir de là, il n'y a plus de référent. Et la parole, c'est une arme de destruction, effectivement, massive.
Qu'est-ce qui est nouveau? Parce que Clément Vikorovitch datait ces temps de dégradation de la parole de 2016. C'est-à-dire, on est en 2015, ça fait en 2025, ça fait 9 ans. Est-ce que vous dateriez de la même façon? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des choses très différente par rapport à ce que vous avez connu avant, parce que d'une certaine façon, vous dites aussi l'un et l'autre que les politiques ont toujours menti. Bon, on les entendra, les politiques, mercredi. Donc, qu'est-ce qui est nouveau pour vous?
Ce qui est nouveau, c'est que effectivement les politiques ont toujours menti, et en effet on peut refaire l'historique. Il n'y a pas un quinquennat en France et un mandat ailleurs qui n'ait été marqué par un grand mensonge. Auparavant, on mentait, et c'est ça qui est nouveau, de manière stratégique. On mentait quand on y était contraint. On mentait pour dissimuler ce qui était trop embarrassant pour être révélé. On mentait en prenant le risque d'être attrapé dans son mensonge parce que ce que l'on cachait était pire que l'acte de le cacher. Aujourd'hui, on ment pour tout et n'importe quoi, même quand il n'y a pas de raison. Vous avez sans doute vu cette image de Brigitte Macron à la descente d'un avion qui semble donner, certains diront une gifle, d'autres diront une chamaillerie à Emmanuel Macron. Quel a été le premier réflexe de l'Élysée? Le premier réflexe de l'Élysée a été de dire « les images sont fausses, c'est de l'IA ». C'était un mensonge. C'est un journaliste de AP, Associated Press, qui a pris les images. C'est un mensonge plein et entier. Et sans aucune raison, les images n'étaient pas si embarrassantes qu'il y avait besoin de mentir à leurs propos. C'est ça qui est différent, c'est que hier le mensonge était grave et l'on n'y venait qu'en extrême extrémité. Aujourd'hui, on l'utilise par commodité, comme ça, pour ne pas avoir à assumer les conséquences de ce qu'on a dit l'avant-veille.
Mais c'est les politiques qui sont responsables, parce que vous incriminez les politiques d'ailleurs assez fortement l'un et l'autre. Ou est-ce que c'est la société? Est-ce que nous-mêmes, individus, nous sommes aussi responsables de cette situation?
J'incrimine les politiques et particulièrement les gouvernements parce que leur parole est performative en effet. La parole des gouvernants s'incarne dans le réel. Ce qu'ils disent devient acte et acte qui s'impose à chacun et chacune d'entre nous. Mais vous avez raison. Vous avez raison, le problème est plus général. Et au fond, et je déplore d'avoir à le dire parce que ça fait un peu vieux con, mais tant pis, je vais le dire. Au fond, tout revient aux réseaux sociaux. J'ai été un grand enthousiaste des réseaux sociaux parce qu'ils ont permis et permettent encore dans une certaine mesure une véritable libération de la parole, une démocratisation de la parole. Avant-hier, avant les réseaux, personne ne pouvait s'exprimer publiquement s'il n'avait pas accès à un micro. Aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Et ça a eu des traductions concrètes. Qu'ont été les gilets jaunes? On peut discuter du mouvement, on peut discuter de ses porte-paroles et de ce qu'ils sont devenus. Mais à la base, les gilets jaunes, c'est 4 citoyens ordinaires, des gens comme vous et moi, justement pas comme moi, des gens qui n'ont pas accès à un micro, qui postent quelques publications sur Facebook, Twitter, qui deviennent virales et qui donnent naissance à formidable, on peut en discuter, mais en tout cas, un mouvement de contestation qui fera trembler jusqu'au mur du pouvoir. Ça, c'est ce qu'ont produit les réseaux. Hélas, le jeu des algorithmes fait qu'aujourd'hui, nous sommes enfermés sur les réseaux dans ce qu'on appelle des chambres d'écho. Et je pense que chacun et chacune, on peut le constater. Sur nos fils d'actualité, les paroles qui sont consonantes avec les autres, qui viennent renforcer ce que nous pensions, sont amplifiées. Et les paroles dissonantes sont d'office disqualifiées, discréditées. Si bien que quand nous allumons Twitter, Instagram, même Google qui nous propose des résultats en fonction de nos recherches précédentes, nous avons en permanence une machine à nous confirmer dans ce que nous pensions et à infirmer tous ceux qui disent autre chose. Et la conséquence, c'est qu'on ne peut plus s'accorder sur les actes. Nous vivons dans des réalités parallèles. Aux États-Unis, en 2018, Donald Trump avait déjà enchaîné des milliers et des milliers de mensonges. Quand on demandait aux électeurs démocrates « Est-ce que vous pensez si Trump dit toujours ou souvent la vérité ?» Ils sont 5% à répondre « Oui, ils ont raison ». Quand on pose la même question aux républicains, ils sont 76% à répondre « Oui ». La vérité, c'est que sous l'impulsion des algorithmes des réseaux, nous avons perdu un fondement commun sur lequel établir nos discussions.
Gérald Garuti.
Oui. La question de la nouveauté aujourd'hui du régime de parole, évidemment, est indissociable. Et vous venez de le dire, la question technique, voire technologique. Et si on prend une perspective d'ensemble, on peut se demander quel a été notre rapport au monde et donc à la parole depuis, disons, sinon toujours, en tout cas, depuis une certaine origine. Il y a eu un certain nombre de révolutions, on pense évidemment à l'imprimerie, on pense aux révolutions industrielles, on pense notamment lors de la deuxième révolution industrielle à la radio justement, ensuite à la télévision, bon, donc tout ce qui a permis une forme de médiatisation et donc d'amplification. Et quand Hannah Arendt se demande si le totalitarisme est un régime radicalement nouveau, est-ce qu'on peut considérer que le totalitarisme est une forme de simplement de dictature ou de tyrannie agrémentée de modernité ? Eh bien non, c'est un régime nouveau parce que c'est la terreur plus les haut-parleurs, plus les machines, c'est-à-dire que c'est la terreur industrielle. Donc on ne peut pas penser le totalitarisme si on ne pense pas le XXe siècle avec ce que ça suppose de transformation radicale et la capacité d'émettre des discours qui vont être répercutés partout, par les radios, par les haut-parleurs, et donc la puissance d'endoctrinement. Eh bien je dirais aujourd'hui que nous vivons une révolution anthropologique, c'est-à-dire que notre rapport au monde est en train de changer de façon drastique. Aujourd'hui, nous sommes entre deux mondes. Nous avons connu la relation directe, nous avons connu le face-à-face. Vous citiez Cynthia Fleury, qui est une amie de toujours et avec qui on construit au sein du Standard la parole. Et donc, effectivement, il y avait ce face-à-face, cette transmission. Il y a évidemment le rapport au livre. Eh bien, lorsque nos enfants ou les enfants de nos enfants auront connu des gens dont le rapport est strictement médiatisé au monde par des écrans, quelle que soit leur nature, avant d'attendre le moment où l'écran sera intégré à la personne humaine, et là, il n'y aura même plus d'échappatoire. Et je ne suis pas dystopique en disant cela, je regarde simplement ce qui se passe. Alors, nous aurons évidemment changé complètement de paradigme, de rapport à la parole. Donc, ce qui se joue aujourd'hui, c'est, je ne dirais pas la question des médias, mais la question du médium. Et on sait bien, au moins depuis Régis Debray, que le médium fait le message. Vous ne dites pas la même chose avec un livre de 600 pages, vous faites Crime et Châtiment, ou un tweet qui va faire 140 caractères. Vous allez informer votre discours. Et je ne dis pas votre parole, ce qui pour moi est distinct. Ça veut dire que ce qui a changé, au-delà des mensonges d'État, des mensonges des chefs d'État, c'est évidemment l'industrialisation et en effet l'atomisation, c'est-à-dire à chacun sa réalité ou sa non-réalité. Et nous sommes désormais dans ces prismes-là. Et ce qui a changé depuis, ce sont les réseaux sociaux, c'est évidemment l'intelligence artificielle, c'est tous ces phénomènes qui arrivent. Et sans être technophobe, il faut bien voir ce que cela implique, c'est-à-dire dans quelle mesure nous sommes encore capables de nous parler, comme ici, puisque je vous parle, vous êtes en présent, je parle aussi aux gens qui sont dans le même temps, puisque nous sommes en direct. Donc il y a quelque chose qui nous relie, qui nous tient, qui est cette parole adressée, ça s'appelle une parole incarnée. Et je réponds à ce que dit Clément Vitorovitch, c'est ce que vous dites. Donc ça veut dire que la question, pour moi, c'est bien celle de la médiatisation. Je ne parle pas de la médiatisation des médias, mais de la mise en forme et de la traversée que le discours peut prendre. Qu'est-ce qu'il devient ? Ajoutez à cela, évidemment, que tous ces médias, médiums, sont mus par des logiques qui sont financières et économiques, nécessairement. Ce sont des machines. Eh bien, les machines, qu'elles soient algorithmiques, elles résonnent, si je puis dire, et non pas elles résonnent, mais elles fonctionnent, pour être plus précis, sur un certain nombre de modèles qui vont générer le maximum de quoi ? D'audience, d'interaction, de clash. Donc, on en arrive à une sorte de narcissisme 2.0 que vous évoquiez, c'est-à-dire je me regarde dans mon miroir qui me renvoie ou du même, ou de quoi me rendre fou furieux, ce qui marche aussi, d'accord ? C'est-à-dire des choses qui sont absolument détestables, qui vont polariser littéralement le monde en deux, chacun considérant que l'autre partie du monde n'a non seulement pas voix au chapitre, l'être, mais voit l'existence. C'est-à-dire que l'autre n'est plus une différence, quelqu'un avec qui on a un différent ou une altérité, c'est devenu au mieux un alien, au pire un ennemi ou un danger public. Et là, la question même de se parler, puisque la question c'est parler, mais se parler, devient quasiment impossible.
Il est 18h35 sur France Culture, nous sommes en direct et en public des rencontres de Pétrarque à Montpellier. Le thème de cette semaine, réapprendre à se parler. Le sujet de ce soir, ne sait-on plus se parler, avec nos deux invités, Gérald Garrutti, qui parlait à l'instant, et Clément Vitkorovitch. On va se demander en quoi c'est problématique, au fond, et surtout comment on peut réparer la parole. Pour Platon comme pour Aristote, le sophiste, c'est l'homme du pseudos, de ce qui paraît mais n'est pas, de ce qui va conduire au mensonge et au faux, du semblant, du masque, de la mimésis. Simplement, dans la cité même, le sophiste est aussi bien l'homme de ce qui constitue la cité. Le logos, c'est ce qui fait une cité grecque. C'est ce qui fait qu'il y a une agora. C'est ce qui fait qu'il peut y avoir un consensus. C'est-à-dire ce qui fait que chacun dans sa différence, chaque citoyen dans son extrême singularité, peut se trouver d'accord à un moment donné, ce que les sophistes appellent le kairos, l'occasion. Donc les sophistes proposent quelque chose comme un consensus politique qui tient compte du kairos et qui constitue en tant que tel la cité, c'est-à-dire l'homonoïa, la concorde, à l'intérieur de soi-même, entre les gens et entre les cités.
Je retiens de ces propos de la philosophe et philologue académicienne Barbara Cassin cette phrase, logos, le langage, donc c'est ce qui fait la cité. Est-ce que c'est pour cette raison que ne plus savoir se parler, c'est problématique ? Clément Vitkorovitch.
Alors oui, c'est tout de même, ça n'est tout de même pas le moindre des problèmes que nous ayons devant nous. La démocratie, c'est le régime du langage et de la parole. On peut la définir comme cela. Et quel est le rôle des citoyennes et des citoyens en démocratie, c'est-à-dire celles et ceux qui, en théorie, ont le pouvoir, demos kratos, le pouvoir au peuple. Leur rôle, à minima, c'est d'être des récepteurs de discours. C'est en écoutant les discours, les prises de parole, les argumentations de celles et ceux qui se présentent à nos suffrages que nous pouvons nous forger un jugement éclairé et ensuite traduire ce jugement par un acte qui est un acte de vote. Et pour que cet acte soit critique, il faut que nous soyons capables de décrypter ces discours, de voir à travers les voiles du langage, des discours et des sophismes, car ça ne date pas d'hier que la parole peut être utilisée d'une manière stratégique qui peut chercher à tromper, à troubler, à égarer celles et ceux qui l'écoutent. Donc, à minima, la démocratie, c'est le régime dans lequel nous sommes des récepteurs de discours. Mais bien sûr, ça n'est pas que cela. En tout cas, ça n'est pas l'idée et l'idéal que moi je m'en fais. Je pense, et j'ai toujours pensé, que la démocratie, c'est aussi le régime dans lequel les citoyennes et les citoyens doivent pouvoir participer à l'action publique, à l'élaboration des décisions, voire à la prise des décisions. C'est le régime de la délibération dans lequel chacun et chacune d'entre nous avons un point de vue à faire entendre, des contributions à proposer, des propositions peut-être même, pourquoi pas, à avancer. Et donc, à ce titre, nous sommes les uns et les autres, nous sommes des producteurs du discours. Et dans un monde démocratique où précisément on ne peut plus parler, il n'y a plus de fondements factuels consensuels sur lesquels nous pouvons nous accorder pour au moins en débattre. Parce que le problème des faits, c'est qu'on ne débat pas des faits. On s'accorde sur les faits et on débat de leur interprétation. On débat des actions à prendre à leurs conséquences. Mais les faits en eux-mêmes, ils sont précisément la première brique de notre pensée, de notre argumentation et de nos controverses. S'il n'y a plus de faits sur lesquels nous pouvons nous retrouver, alors comment encore écouter des discours en sachant quoi en faire, puisqu'on ne sait plus sur quoi ils sont fondés? Comment même échanger entre nous si nous ne pouvons plus nous accorder sur un ensemble de faits minimaux? Si même les mots n'ont plus aucun sens? Certains vont vous dire que la menace principale en France, c'est le wokisme. D'autres vont vous répondre que le mot n'a aucun sens. Quels sont ceux qui ont raison? On pourrait en débattre. Mais le simple fait même que l'on débatte du fait de savoir si un des mots qui constitue notre débat public a un sens est, vous me l'autoriserez, problématique. Auparavant, c'était l'islamo-gauchisme. Que de débats a-t-on entendu sur l'islamo-gauchisme? Certains disant c'est la plus grande menace, d'autres disant ça n'existe pas du tout, jusqu'à ce que, je vous raconte la fin de l'histoire, spoiler, pardon, le CNRS comme la conférence des présidents des universités disent arrêtez de nous embêter avec ça, à la ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal, arrêtez de nous embêter avec ça, ne nous demandez pas de rapport, ces concepts n'ont aucun sens académique. Donc, voyez, à partir du moment où nous ne pouvons plus nous accorder sur les faits, où les mots désignent autre chose de ce qu'ils disaient hier, jusqu'à ce qu'un candidat libéral conservateur intitule son livre programmatique Révolution. Je parle d'Emmanuel Macron. Les mots n'ont plus de sens. Ils disent le contraire de ce qu'ils voulaient dire hier. Certains sont totalement vides et pourtant nous en débattons. Que devient le régime de la parole quand le fondement même de la parole, c'est-à-dire les mots, nous ont été volés?
Si on comprend, Gérald Garrutti, qu'il y a nécessité, voire urgence, à réapprendre à se parler, alors comment s'y prend-on? Qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui redonner son sens plein et entier à la parole?
Je voudrais, avant de vous répondre, Caroline, rebondir sur ce que vient de dire Clément. Oui, le régime de la parole est certainement la démocratie, et il n'y a aucun hasard si, au même moment, en Grèce, au 5e siècle avant Jésus-Christ, naissent en même temps, je dirais, trois formes. La démocratie, la tragédie, le théâtre en général, et la philosophie. Ce sont trois formes dialectiques. Même au théâtre, en tragédie, lorsqu'au début vous avez un seul acteur, il s'adresse au public. Évidemment, par définition, la démocratie, vous venez de le dire, est une forme dialogique. Et la philosophie, que dit Platon dans le Théétète, qu'appelles-tu penser? Un dialogue que l'âme se tient à elle-même. Et que fait Socrate? Constamment dialoguer. Ce sont d'ailleurs des dialogues. Trois formes dialogique. Donc il y a le logos, la parole, mais il y a le dialogue, qui est littéralement la parole qui traverse, la parole qui permet de faire du commun, d'aller vers l'autre et de faire que les autres se rencontrent. C'est bien pour ça d'ailleurs que moi, j'ai considéré que par-delà l'éloquence, qui est évidemment fondamentale, il y a ce que j'appelle les arts de la parole, c'est-à-dire des manières de rencontrer l'autre par différents régimes de parole. Or, je pense que ce que nous sommes en train de perdre aujourd'hui, c'est non seulement le logos, mais c'est le dia, si je puis dire. C'est-à-dire la question de comment on peut rencontrer les autres. Comment peut-on en effet se rencontrer, se parler quand on n'a plus d'espace commun? Vous avez cité la question des faits. Bien évidemment, si on n'est pas d'accord sur des faits, on ne peut même pas en discuter. Si on peut nier les faits. Ah ben moi, je nie que ce tilleul existe. Voilà.
Oh bah
vous, c'est votre opinion.
Vous ne pouvez pas faire ça.
Vous pensez, Caroline, que ce tilleul existe? Eh bien, moi, je le nie. Il n'y a pas de tilleul, là. Voilà. Ça n'existe pas. Donc, dès lors qu'il n'y a pas de tilleul pour moi et un tilleul pour vous, on ne va pas pouvoir discuter de la qualité du tilleul. Bon. Ça, c'est un premier niveau. Et ensuite, la question des mots, vous l'avez dit. Or, on sait très bien que toute cette perversion du langage et des mots constitue même un effort pour empêcher de penser. Dans 1984, on parle tout le temps de Big Brother, qui est un point important, mais une des choses fondamentales d'Orwell, c'est la question du langage. D'ailleurs, il y a un appendice où il décrit ce que c'est que la novlangue, ce nouveau langage. Tous les ans, dans le dictionnaire de la novlangue, on enlève des mots. C'est un dictionnaire inédit, puisque normalement, on ajoute des mots. Vous savez, Shakespeare a inventé la moitié des mots de la langue anglaise, par exemple. Eh bien là, on enlève des mots. Et il s'en félicite. Pourquoi? Parce que en enlevant le mot de résistance, vous ne pourrez plus penser la résistance. Ce qu'on ne peut penser, on ne peut le dire. Et ce qu'on ne peut dire, bien comment le faire? Donc, à partir de là, la question même du langage est fondamentale. On n'est pas simplement sur l'accent circonflexe de l'imparfait du subjonctif, ce qui déjà pourrait être un sujet. Mais non, on est vraiment sur comment on a une capacité à penser le réel et à le dire. Et lorsque, par exemple, Donald Trump, aux États-Unis, interdit des mots, les enlève littéralement des lexiques, il empêche la possibilité, la pensée, voire il nie l'existence des choses. Donc, cette perversion du langage des mots, eh bien, elle est problématique, mais elle est problématique aussi parce que, et vous avez commencé à le dire, cela nous empêche d'avoir un espace commun. Or, la plus vieille question démocratique, c'est comment, à partir du multiple, on fait de l'un? Comment, à partir du divers, on fait du commun? C'est déjà la question que posent Platon et Aristote. Or, il faut un espace commun. Vous pouvez appeler ça le langage, vous pouvez appeler ça la cité. Il faut un espace commun où mettre en accord les désaccords, où on va pouvoir les confronter, discuter. L'un des problèmes aujourd'hui, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'existez pas. Ah, je veux pas entendre, je veux pas savoir. Donc, il n'y a pas de possibilité même de rencontre. Et à quoi aboutit-on? À une forme d'atomisation. Parce que les faits, bien, on ne les reconnaît plus. Parce que tout est, en effet, traversé par des filtres qui sont à géométrie variable, à focale variable, et qui sont en quelque sorte adaptée à ce que nous sommes, et puis parce qu'en effet, eh bien, nous ne savons plus exactement ce que nous voulons dire ou ce que les mots veulent dire.
Donc, comment fait-on pour reprendre parole, pour recréer cet espace commun? Est-ce que, par exemple, quand vous, Gérald Garrutti, vous avez fondé le Centre des Arts de la Parole en 2022, si je ne m'abuse, c'était précisément à dessein, c'était précisément pour recréer cet espace commun où on tient parole, où on se donne les conditions d'une parole bonne, si tant est qu'elle existe, juste, reliante?
Merci Caroline de nous sortir de ces eaux dystopiques, noires et pessimistes.
On essaie d'aller vers ce qui va mieux.
Pour nous
même,
emmener vers de la lumière. Alors oui, je disais il y a pas longtemps que je suis très camusé en ce moment, ça veut dire très désespéré, mais très engagé. Donc là, j'ai peut-être fait entendre une voix un peu désespérée, mais on va parler du volet engagé. Je ne pense pas que les choses évoluent bien, je ne pense pas que ça s'arrange, mais je pense qu'à l'échelle humaine, comme ici, on peut faire quelque chose. Voilà, je crois à l'échelle humaine. Et je crois à la possibilité, effectivement, de rencontre. Et je crois à la possibilité de ne pas avoir de l'humanité en moi. Parce que la parole en moi, c'est de l'humanité en moi. Voilà. La fin de la parole, c'est la fin du commun, c'est la fin du lien, c'est la fin de soi, etc. Et donc, comment faire? Eh bien, je propose notamment le déploiement de ce que j'appelle les arts de la parole. Les arts de la parole, c'est-à-dire des formes qui permettent de déployer toutes nos dimensions, et non pas simplement une dimension que j'appellerais percussive de la parole et une dimension qui serait explosive, voire insultante. Donc, je distingue 7 arts de la parole, 3 arts de la création, le théâtre, la parole qui s'incarne et qui s'adresse, le récit, la parole qui se raconte, la poésie, la parole qui se formule, se fabrique, c'est ce que veut dire poème, littéralement, fabriquer, 2 arts de la transmission, l'éloquence, la parole pour convaincre, la conférence, la parole pour transmettre des savoirs, et pour moi, un savoir n'est pas une opinion, sinon on est exactement dans le régime sophistique. Et puis, 2 arts de l'interaction, c'est-à-dire le dialogue, la parole qui s'échange, et le débat, la parole qui se confronte. Je pense que en ayant accès par la formation, par la création, par la réflexion, par la rencontre, par l'expérience, à ces 7 arts de la parole, nous pouvons déployer tout ce que nous avons d'humain, c'est-à-dire une parole qui s'incarne, qui s'adresse, qui s'échange, qui se confronte, et déjà distinguer le débat et le dialogue, et on en parlait un petit peu tout à l'heure, Clément, avant l'émission, c'est déjà, pour moi, sortir de cette illusion contemporaine, c'est-à-dire qu'on confond le débat avec le combat et le combat avec la destruction de l'autre. Vous voyez des gens qui se parlent soi-disant, en fait, ils ne se parlent pas, ils se pilonnent mutuellement sans s'écouter. Vous savez, c'est ce que disait Georges Marchais, alors c'était pas du pilonnage, mais un journaliste lui posait une question et il répondait un truc qui n'avait rien à voir. Et le journaliste disait, mais c'est pas ma question. Et Georges Marchais disait, mais oui, mais c'est ma réponse. Vous avez votre question, j'ai ma réponse. Bon, alors il était très fort en termes de rhétorique pour le coup, mais ça ne se rencontrait pas. Mais là, c'était en effet une stratégie. La question aujourd'hui, c'est de retrouver pour moi la question, le sens du dialogue, c'est-à-dire de la rencontre avec l'autre, parce que évidemment, pour s'en sortir, il faut encore se rencontrer.
Je vais revenir aux entre des arts de la parole dans un instant, mais puisque vous évoquez la rhétorique et que Clément Vitkorovitch, vous avez aussi écrit un livre intitulé « Le pouvoir rhétorique ». Donc, reprendre notre pouvoir sur la parole, et reprendre mot au sens très fort du terme, ce serait apprendre à convaincre ?
Moi, je pense en effet que l'une des clés, pas la seule, mais l'une des clés, je rejoins Gérald dans cela, je pense que l'une des clés, c'est le partage du savoir. Alors moi, j'appelle cela un savoir rhétorique, mais on aurait sans doute un désaccord sur les termes qui n'aurait absolument aucun intérêt. Je pense en effet que la rhétorique, c'est-à-dire l'art de convaincre, est une compétence citoyenne fondamentale pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure. C'est une compétence personnelle fondamentale. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre à convaincre? On imagine immédiatement des applications politiques, des applications professionnelles. Convaincre, c'est simplement réussir à faire entendre ce qui est important pour soi. En cela,
mais
on
donc
a
là,
tous...
on n'écoute pas les autres quand on essaye de convaincre l'autre.
Ben, on s'écoute déjà.
On essaie d'imposer nos arguments.
On s'écoute déjà soi et on cherche, en effet, à faire prévaloir ce qui est important pour nous. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'écoute pas l'autre. La différence d'un échange argumenté, c'est quoi? C'est chercher à convaincre tout en admettant l'éventualité, fût-elle infime, de pouvoir être convaincu. C'est là où c'est la seule nuance qui sépare le débat stérile d'une discussion positive. C'est la seule nuance qui sépare un dîner de famille qui explose en vol avec votre oncle raciste qui finit à la cuisine et vous à l'autre bout du salon, et un échange qui pourra être rude, mais où chacun voulant faire prévaloir sa parole, parce qu'on a le droit de croire en ce qu'on pense, on a le droit d'avoir des convictions, et je pense que c'est plutôt une bonne chose, mais tout en ayant des convictions, on accepte l'éventualité, fût-elle infime, de pouvoir être fût-ce partiellement convaincu par l'autre. Et à cet endroit-là, je crois qu'on a besoin de deux choses, une éthique de la discussion, et dans le pouvoir rhétorique, en effet, je défends une éthique de la discussion, tout en reconnaissant qu'il y a plusieurs éthiques possibles et que chacun et chacune d'entre nous devons faire notre choix. Et ensuite, je défends le partage du savoir rhétorique pour que toutes et tous, nous soyons à égalité. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, la rhétorique, l'argumentation, c'est une arme de domination. Pourquoi ? Parce que c'est une arme qui est entre les mains de quelques-uns et qui s'applique à toutes et à tous. Nous sommes chacun et chacune d'entre nous la proie d'experts de l'argumentation et de la rhétorique qui ont toutes les armes pour nous convaincre, politiciens, publicitaires, avocats, syndicalistes, journalistes, nous-mêmes qui sommes ici en train de parler. Mais quand un savoir est partagé par toutes et par tous, alors il cesse de s'exercer inéquitablement. Et là, la rhétorique enseignée à tout le monde devient non plus une arme de domination, mais un outil d'émancipation. C'est ce en quoi je crois. Ce en quoi je crois, c'est de partager cette arme à tout le monde, de partager ces outils à tout le monde, de donner à chacun et chacune l'opportunité de faire entendre sa voix, à la fois de manière personnelle dans nos échanges interindividuels, et aussi dans la cité, et aussi dans nos échanges et nos délibérations citoyennes. Et je pense que si nous faisons cela, nous touchons du doigt l'idéal habermasien, c'est-à-dire un espace public sain dans lequel pourra peut-être, et je dis bien peut-être, triompher la force non violente du meilleur argument. C'est l'idéal qui m'anime, c'est l'idéal de Jürgen Habermas. Il n'est pas possible si nous ne sommes pas à un pied d'égalité sur l'utilisation de la rhétorique.
Vous en faites un enjeu d'éducation populaire, en introduisant des cours de rhétorique générale dès la première. Gérald Garuti.
Je veux bien effectivement rebondir. Alors, il y a un point sur lequel on se rejoint absolument, c'est naturellement la question éthique. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs toute la différence entre une approche, appelons ça philosophique, et une approche sophistique. C'est-à-dire que, pour moi, il est indispensable d'avoir une éthique de la parole, ce que j'appelle la parole juste. J'étais à une radio l'autre jour dont le slogan était « parler vrai ». J'ai dit « parler vrai, c'est bien, mais parler juste, c'est pas mal non plus
». C'est quoi parler juste ? C'est quoi parler juste ?
Parler juste, ça veut dire parler avec une visée qui n'est pas la visée uniquement. Et là-dessus, j'ai une différence d'argument. Je pense que toute parole n'est pas argument. Je pense qu'il existe des modalités de parole, et c'est bien pour ça que je parle des arts de la parole. Même quelle que soit l'extension qu'on donne, ça va être le moment peut-être dialectique de nos discussions. Hein,
mais il est temps, il est 52, attention. Hein.
Quelle que soit l'extension qu'on donne à la rhétorique, et je veux bien que la rhétorique intègre ce qu'on appelait l'axio, c'est-à-dire l'interprétation, ou peut-être même une partie du théâtre, la manière d'incarner. Donnons une extension maximale à la rhétorique ou à l'éloquence. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce vers de Verlaine, « Prends l'éloquence et tords-lui le cou ». Voilà, dans l'art poétique. Parce que c'est un art poétique, et que on ne peut pas réduire la poésie, le théâtre, etc., pour moi, à l'éloquence. Et notamment,
bien sûr.
L'un des sujets, et je pense que la modalité, je suis d'accord avec vous sur le fait que nous devons absolument donner le maximum, pas seulement d'armes, mais d'outils, et je dirais même de dimensions possibles. Et c'est bien pour ça que je suis là aussi d'accord avec vous sur le fait qu'il faut former le plus tôt possible. Moi, je préconise le fait d'introduire les arts de la parole à l'école dès le primaire. Voilà. Là où j'ai appris à mettre en scène, c'est-à-dire en Angleterre, vous savez, à l'école primaire, l'après-midi, les enfants jouent du Shakespeare. C'est-à-dire qu'ils jouent le roi Lear à 10 ans, 7 ans. Il faut pas s'étonner qu'après, en termes de confiance, d'incarnation, de possibilité d'adresse, de qualité de débat, ils aient des talents qui ne sont pas naturels, mais qui ont été travaillés pendant des années. Nous, à l'école, on lève le doigt, on a peur. On a peur de s'en prendre une. Voilà. Les trois quarts des gens ont peur de prendre la parole en France, d'accord ? Sauf quand on a été formé pour ça, parce qu'on enseigne ou parce que on est dans les médias, etc. Donc, je pense que les arts de la parole à l'école, la rhétorique, oui, mais pas seulement. Le théâtre, le dialogue, le débat, alors après, ça veut dire qu'est-ce qu'on appelle rhétorique ? Et moi, j'ai une question à vous poser, c'est quelle part vous faites à l'écoute dans la rhétorique ? Et notamment, pourquoi ? Parce que je suis toujours frappé de voir que dans ce qu'on appelle la prise de parole en public, on ne parle à peu près jamais d'écoute. C'est sidérant quand même. On sait très bien au théâtre que la première qualité de l'acteur, c'est l'écoute. Et moi, j'appelle ça la prise de public en parole. Voilà. La prise de public en parole, ça veut dire le fait qu'on va essayer de faire en sorte que l'autre vous capte. Mais comment est-ce que moi, je fais en sorte d'être écouté et d'écouter l'autre ? Donc, question, qui n'est pas rhétorique, quelle place pour l'écoute dans la rhétorique ?
Clément Vikorovitch.
On peut répondre de plein de manières. La rhétorique, encore une fois, c'est l'art de convaincre, c'est-à-dire l'art de proposer sa pensée de la manière la plus persuasive qui soit. Donc, moi, je n'ai pas une conception extensive de la rhétorique jusqu'à tout faire rentrer dedans, ce que certains ont, et je n'ai aucune querelle avec le fait de dire qu'il y a d'autres arts de la parole qui existent à côté de la rhétorique, y compris l'art de la discussion. Un mot peut-être pour dire que au-delà de l'enseignement et de l'éducation populaire, il y a un point moi qui m'est cher. C'est l'idée de dire que peut-être une des solutions, c'est de retrouver la parole interpersonnelle, interindividuelle. Peut-être que l'une des clés, c'est d'abandonner cet idéal des réseaux sur lesquels de toute façon, il va y avoir de plus en plus d'intelligence artificielle qui parle et produise et de moins en moins d'humains pour refaire ce que nous sommes en train de faire là. C'est-à-dire retrouver du face-à-face, retrouver de l'écoute. Moi, j'ai été fasciné par ce qui s'est passé sur les ronds-points au moment des Gilets jaunes. Parce que les gens se sont parlé. J'aimerais que l'on recrée des institutions, des maisons du peuple, des agora citoyennes, on les appelle comme on veut, où nous pourrions nous parler les uns avec les autres, en face des autres. Là, peut-être, il y a quelque chose d'enthousiasmant.
Peut-être pouvons-nous terminer par un vrai face-à-face, Clément Vikorovitch, par une vraie incarnation, par une sorte de seul en scène en extrait, puisque vous nous proposez un extrait de votre spectacle, qui est une sorte de mise en pratique de ce que vous faites sur scène et surtout de ce que vous venez de dire. Vous acceptez de nous jouer un tout petit bout de votre spectacle, l'art de ne pas dire ?
Avec grand plaisir, évidemment.
Pour faire une prise de parole en public et pas une prise de public en parole.
Oh, comme ça.
Allez, on vous écoute.
Il faut que je vous situe l'extrait dans l'art de ne pas dire. J'incarne le conseiller en communication d'un président de la République. Ce conseiller en communication vient de se faire virer. Et il décide pour se venger d'organiser une conférence dans laquelle il va déballer absolument tous les secrets de communication du pouvoir. L'extrait que je vais vous dire se situe au début du spectacle. Il fait la rétrospective de la campagne électorale. Le conseiller a déjà choisi le cheval sur lequel il allait miser, qui deviendra le président. Il lui a écrit son discours de déclaration de candidature. Et après, tout reste à faire. Et donc, ce conseiller dit ceci. En attendant, tout restait à faire. On avait déjà le costume, le discours, le candidat. Il nous fallait encore une marque, un mot puissant, un cri de ralliement auquel nos supporters pourraient s'identifier et qu'ils auraient à cœur de défendre. Un nom qui donne l'idée du changement, car c'est au fond le seul produit vendeur en politique. La réforme, la transformation, la refondation, bref, le changement. Peu importait au fond de dire où nous allions, tout ce qui comptait, c'était d'aller quelque part, de quitter l'ici et le maintenant. Car ici et maintenant, les gens souffrent, ou du moins, ils ne sont jamais pleinement satisfaits de leur situation. Cette insatisfaction, c'est le filon juteux que nous devions creuser, l'élancer. Voilà le nom qu'on a choisi pour la campagne, l'élancer. On avait bien envisagé d'autres possibilités, au large, l'horizon, l'aurore, la marche, mais il nous fallait du neuf, ou du moins l'apparence du neuf, l'élancer. L'élancer n'est pas un parti, hein. C'est un mouvement. Quelle différence ? Aucune. Mais le parti, c'est le vieux monde. Dans un parti, vous êtes partisan, tandis que dans un mouvement, vous êtes engagé. Le parti enferme, le mouvement projette. Aussi simple que soit l'idée, notre marque était lancée. Il ne nous restait plus qu'à cerner le produit que nous allions mettre en rayon. Enfin, le produit. Le programme. Comme pour le costume, on l'a fait faire. Programme taillé sur mesure pour la campagne, non pas les mesures du candidat, cela va de soi, les mesures de l'électorat. 200 000 euros, voilà ce que ça nous a coûté. 200 000 en institut de sondage aux frais du contribuable pour enfermer des grappes d'électrices et d'électeurs dans une pièce et leur poser des centaines de questions jusqu'à ce que nous sachions exactement ce qu'ils et elles avaient envie d'entendre. On appelle ça des focus group, mais on pourrait se contenter de dire qu'on a fait une étude de marché. C'est ça, vous savez. Le véritable sens des élections. On ne cherche pas à se faire élire pour défendre des idées. On cherche quelles sont les idées qui nous permettront d'être élus.
Merci Clément Vikorovitch.
Merci beaucoup.
L'art de ne pas dire. Merci
Gérald Garrutti, vos livres sont à la librairie La Cavale pour celles et ceux qui sont dans la cour du rectorat de Montpellier et sinon dans toutes les librairies de France, et vous êtes encore sur scène, Clément Vidkorovitch, avec ce spectacle. Merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont aidé à préparer ces émissions, l'aide précieuse de Diane Devancé et la réalisation d'Asia Weber. Merci aux équipes du festival et à celles de Radio France. Voilà, pour terminer, une merveilleuse transition vers l'émission de mercredi notamment, avec nos amis politiques. Et nous reviendrons demain avec cette question sur la liberté d'expression pour continuer ces semaines des rencontres de Pétrarque. Merci à tous les deux. Merci au public. Merci. Et bonne soirée à tout le monde.